suis un mot à consonance anglo-saxonne désignant une vérification des faits. Je suis...
Le fact-checking.
Bonne réponse.
La rumeur d'une camionnette blanche qui enlève des enfants n'est pas nouvelle.
Nous allons tenter de voir comment est née cette rumeur, comment elle s'est propagée. C'est le faux et usage de faux.
En France, évidemment, les informations, les infox qu'on voit souvent circuler, qui sont souvent poussées généralement par des partis plutôt extrémistes.
Chaque matin sur France Info, vous traquez donc les fausses informations dans le vrai du faux. Aujourd'hui, les migrants et nos petits retraités.
Lorsqu'on dit que 80% des lois françaises sont d'origine européenne, c'est un mythe.
De fausses informations que les autorités démentent régulièrement sur les réseaux sociaux.
Donc, méfiez-vous des phrases choc, prenez du recul, multipliez les sources, posez-vous les bonnes questions. D'où vient l'info ?
Laquelle ?
Qui l'a écrite ?
Je passe.
Dans quel but ?
Je passe.
À quelle date ?
Je passe.
Dans la nuit de lundi à mardi, une véritable chasse au rhum s'est produite en Seine-Saint-Denis. À l'origine de ces attaques, une rumeur calomnieuse qui circule sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, affirmant que des Roumains se déplaçant en camionnette blanche enlèvent des enfants et des adolescents. Depuis, la communauté rhum vit dans la peur et certains commencent même à s'organiser pour pouvoir se défendre. Comment une telle rumeur, qui touche à des légendes ancestrales tenaces, est-elle possible aujourd'hui pour les médias traditionnels qui se lancent les uns derrière les autres dans le fact-checking? Cette affaire des rumeurs d'enlèvement d'enfants par des Roms est peut-être un cas d'école. Est-ce qu'il sert encore à quelque chose de fact-checker les mauvaises informations ou les fausses informations? Que peuvent les fact-checkers face à la désinformation? On est à 2 mois des élections européennes et il nous a paru important de poser la question aujourd'hui à nos deux invités. Samuel Laurent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la rubrique Les Décodeurs. J'ai envie de dire un historique du fact-checking, parce que les décodeurs, ça appartient au Monde. C'était à l'origine un blog qui a une dizaine d'années. Je crois que ça a été créé en 2009, avant de devenir une rubrique du journal en 2014. Éléonore Gay, bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Vous êtes la directrice adjointe de la rédaction de France Télévisions qui, après l'œil du 20h sur France 2, vrai ou fake sur France Info, Escape Games sur France 4, a lancé et installé une nouvelle rubrique consacrée au fact-checking dans le journal télévisé de 20h d'Anne-Sophie Lapix début février, intitulée les faux et usages de faux, et une autre la semaine dernière dans le 20h du week-end consacrée aux idées reçues sur l'Europe intitulée l'Europe dans tous ses états, et je ne les cite pas tous, il y en a peut-être encore d'autres. J'aimerais bien qu'on commence par en fait cette information ou fausse information. La vraie information, c'est qu'il y a eu des agressions de Roms cette semaine. La fausse information, ou plutôt la rumeur, c'est celle d'enlèvement d'enfants. Face à cela, comment réagissez-vous en tant que journaliste bien sûr et en tant que fact-checkers? Samuel Lang.
Ces rumeurs de camionnettes blanches, intéressant, c'est qu'en fait, ça fait des années et des années qu'elles se promènent sur Internet. On les trouve depuis 10 ans sur la toile. C'est parti notamment de Belgique, mais moi, je les ai vus depuis 2-3 ans, on les voit faire le tour de la France. Et régulièrement, ça fait la même chose, c'est-à-dire les autorités sont obligées de démentir parce que vous finissez par avoir des histoires de gens qui se font agresser, notamment les chauffeurs des camionnettes souvent. Là, sur les Roms, le glissement intéressant, c'est que ça a touché une autre population qui est la population de la banlieue parisienne, qui s'est automobilisée. Et ce qui était fascinant, c'est que malgré les nombreux, très nombreux appels à dire c'est une fausse information, il n'y a pas d'enlèvement des autorités. Moi, j'ai vu passer plein de tweets, plein de messages de gens disant, en gros, on s'en fiche, on les croit pas, on continue, quoi.
Ce qui, donc, vous a pas empêché de faire un papier pour les décodeurs?
Non, alors après nous on a essayé de faire un papier qui remontait un peu aux sources de tout ça et qui essayait de comprendre un peu pourquoi, bon, parce que derrière tout ça il y a un racisme anti-Rome qui est solidement implanté dans la population française, mais enfin c'est pareil dans toute l'Europe, c'est finalement ça qui se joue là. Je pense que l'exercice de la vérification ne peut pas par définition, surtout à l'heure d'internet, prétendre faire disparaître les rumeurs, c'est pas possible.
Ça prétend quoi alors, Éléonore Gay?
Prétend traiter une information, une évolution de l'information qui est liée aux réseaux sociaux, parce que les rumeurs elles existent, elles ont toujours existé, mais simplement là ce qu'on voit c'est une amplification. Donc, par exemple, dans l'affaire des Roms, des camionnettes et des enfants kidnappés, nous, on l'a traité en premier 20 heures sous une forme informative, purement informative, puisqu'il y avait des personnes, une vingtaine de personnes en garde à vue. On avait les autorités, on avait des habitants qui maintenaient qu'il y avait bien eu des enfants kidnappés. Donc, on a fait le sujet. Et le lendemain, on y est revenu avec un sujet plus de décryptage sur comment est née cette rumeur, la carte de France de sa circulation ces dernières années. Nous, on a un site internet qui s'appelle France Info, sur lequel plusieurs fois par jour, dans un fil d'actualité, les téléspectateurs, les internautes peuvent nous envoyer des vidéos en nous disant « je ne sais pas très bien ce que c'est, est-ce que je peux m'y fier, qu'est-ce que je dois en penser, est-ce que je peux la relayer ?» Et donc, on sent bien qu'il y a une demande de toute façon de vérification de ces images. Mais dans l'affaire de la rumeur, ce qui est très particulier, et c'est en ça que c'est peut-être un cas d'école, c'est qu'on est sur à la fois une infox ou une manipulation d'une information, une rumeur, et d'un coup, elle produit un effet dans la réalité, dans le quotidien. C'est-à-dire que, bien sûr, il peut y avoir ça pour les anti-vaccins. Est-ce que ça a un impact sur les gens qui vaccinent ou pas leurs enfants? Mais là, cette fois, on bascule dans le fait divers quasiment du jour au lendemain.
C'est peut-être la différence, d'ailleurs, entre l'infox et la rumeur, Samuel Laurent. Je suppose qu'en tant que fact-checker, vous faites la différence, comme je vais vous poser la question de la différence entre un journaliste et un fact-checker, d'ailleurs.
Bah, on en fait plein. On peut commencer par ça-là. Il n'y en a pas. Un fact-checker, c'est un journaliste.
Est-ce que vous dites que c'est une spécialité du journaliste?
Oui, pour moi, c'est une spécialité.
On se spécialise dans le fact-checker.
Quelque part, oui, parce qu'il y a quelques méthodes, quelques trucs. Après, c'est pas n'importe quel journaliste fait. Alors, on va aussi résoudre cette tarte à la crème-là. Évidemment, tous les journalistes vérifient les informations qu'ils mettent dans leur papier.
C'est quand même la rigueur journalistique avant
absolument.
De faire du fact-checking.
La nouveauté, c'est de faire un papier pour dire... Au départ, le fact-checking, par ailleurs, on fait une propriété de terme. La vérification factuelle de l'information fact-checking, au départ, ça s'adresse plus à un politique dit une phrase fausse. Et je vérifie et je dis, non, ce qu'affirmé machin est faux. Là, ce dont on parle, la chasse aux rumeurs, c'est encore un anglicisme, c'est ce qu'on appellerait du hoax-busting, qui est donc littéralement chasser les rumeurs. Mais si on rentre là-dedans, finalement, la différence entre ça et un traitement journalistique classique, c'est que nous, on va dire, est-ce que cette rumeur est vraie ou fausse? En général, on écrit plutôt un papier pour dire qu'elle est fausse, donc effectivement, on écrit un article sur quelque chose qui n'existe pas. C'est vrai que c'est forcément compliqué. Et ça amène à des postures qui sont un peu particulières par rapport à celles d'un journaliste classique. Mais enfin, le travail finalement qu'on fait, c'est un travail journalistique d'investigation basique.
Et c'est vrai que sur la vérification de la parole politique, il y a eu, sur notre site France Info, qui s'est créé en 2011, au départ, le fact-checking était sur le fact-checking de la parole politique. Et petit à petit, on a élargi le registre. D'abord, il y a eu une rubrique un peu rigolote où on allait débunker, comme on dit, c'est-à-dire vérifier certaines informations du genre « c'est un druide qui va remplacer les médecins dans tel village en Bretagne à cause des déserts médicaux ». Et petit à petit, avec des événements beaucoup plus graves qui ont suscité une montée en puissance de fausses vidéos, fausses informations, photographies détournées, comme par exemple les attentats de 2015, on s'est rendu compte que ces informations-là, elles nous arrivaient sur de grosses actualités sur lesquelles on avait un rôle très important à jouer.
D'où la création d'un certain nombre de rubriques sur France Télévisions.
Oui, voilà. Alors c'est vrai que
vous n'êtes pas les seuls, TF1 s'y met aussi.
C'est vrai que l'historique, chez nous, c'est quand même le site France Info, mais également l'œil du 20h, puisque dès 2014, dans le cahier des charges, il y a aussi cette idée d'aller traquer la fausse information ou l'info manipulée. Et un des numéros qui avait été très regardé et qui montrait à nos téléspectateurs quelle était la démarche de fact-checking, c'était sur cette photographie dont vous vous souvenez peut-être, d'une file d'attente de femmes entièrement voilées devant la CAF en disant voilà qui est le public de la CAF aujourd'hui en France. Évidemment, c'était un photomontage grossier, ça avait été relayé par des réseaux d'extrême droite et on y a consacré un sujet. Et ça, c'était déjà il y a 4 ans. Donc en réalité, voilà, de plus en plus, on s'est rendu compte qu'il y avait intérêt à faire des sujets dessus et à les multiplier.
Ah, c'est précisément la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vraiment il y a intérêt à faire des sujets dessus quand vous voyez, vous le dites vous-même, Hélène Orguet, de plus en plus d'infox grave sur des sujets très sérieux? Alors pourquoi, Samuel Laurent, les gens qui relaient des infox ou des rumeurs sont-ils encore plus nombreux que ceux qui s'efforcent de les démentir, qui eux aussi sont... On a l'impression que vous courez les uns derrière les autres, mais qu'on n'aboutit pas à un vrai résultat quand
forcément
même.
Forcément plus nombreux que les journalistes, je pense que ça, on gagnera jamais cette bataille-là sur le numéraire. Mais
peut-être qu'il faut que tout le monde s'y mette,
oui,
alors.
Oui, c'est ça. Oui, mais je pense que par ailleurs, oui. Je pense que l'un gros intérêt de ces rubriques, au-delà de dire ça c'est faux, parce que ça, effectivement, c'est vider la mer avec une pelle, on est d'accord, c'est d'apprendre aux gens à vérifier eux-mêmes et à ne plus être naïf de la manipulation.
Posez-vous des questions.
Voilà. Et l'idée, c'est quand même d'éduquer à la vérification elle-même. Un bon article de vérification, pour moi, c'est un article où, en fait, si on le refait, on arrive au même résultat. C'est-à-dire que c'est pas tant l'idée d'avoir un tampon qui dit c'est vrai, c'est faux. Moi, autorité officielle de la vérité, je vous dis ça c'est faux. C'est pas du tout ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de dire voilà comment moi j'arrive à vous dire que c'est faux. Voilà les éléments qui me permettent de le démontrer. Et normalement, si vous refaites le même cheminement que moi, vous allez arriver à la même conclusion que moi. C'est un intérêt de transparence et je pense de méthodologie aussi de vérification.
Vous avez vu donc en 10 ans, puisque je vais prendre le blog initial des décodeurs du Monde, Samuel Laurent, vous avez vu donc des bonnes et des mauvaises pratiques du fact-checking et vous avez éprouvé la nécessité aussi d'aller former des journalistes à cette spécialité.
On a eu le temps d'évoluer et d'essayer, donc il y a beaucoup de choses. Il y a notamment la titraille qui est extrêmement importante. Ça m'est encore arrivé récemment sur un, j'ai plus le titre exact en tête du papier, mais on n'avait pas assez bien mis rumeur, machin, le truc s'est retrouvé dans un groupe gilet jaune avec 25 personnes qui trouvaient que c'était vrai. Alors que c'était, enfin, je veux dire, dans le chapeau, dans le papier, c'était quand même écrit, hein, que c'était faux. Mais on l'a pas assez mis en évidence dans le titre. Donc on apprend en pratiquant, on se rend compte aussi que, ça sert à rien d'aller frontalement, des fois, contre les convictions des gens, qu'il faut parfois trouver des moyens d'arriver à rentrer dans leur bulle pour arriver à les convaincre. Par exemple, très longtemps, dans les rubriques fact-check, on finissait les papiers, on mettait toujours un peu la morale de l'histoire, genre c'est pas bien de mentir et tout. On s'est rendu compte qu'en fait c'était nul, enfin, ça servait à rien. On se rend compte qu'il faut comprendre que les gens qui se font manipuler, quelque part, c'est dur pour eux d'admettre qu'ils se sont fait manipuler. C'est-à-dire qu'un des grands classiques que vous avez, vous dites à quelqu'un qu'il a partagé un truc faux, il vous dit « Ah ouais, mais si je l'ai partagé, c'est que ça pourrait être vrai, parce qu'en fait... »
Oui, mais c'est toujours voilà, le fameux « Il n'y a pas de fumée sans feu », et puis d'ailleurs, peut-être s'ils estiment, en s'adressant aux journalistes, s'ils estiment nécessaire de vérifier les choses, c'est qu'ils n'en sont pas sur eux-mêmes, enfin, qu'il y a un loup, etc. Et les Norgay.
Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que dans justement cette affaire de la camionnette, notre journaliste Clément Le Goff, dans son fact-checking, a contacté des personnes qui avaient relayé l'information. Les adjointes, en direct, ils ont échangé. Mais pourquoi avez-vous relayé cette information? Parce que je pense que c'est très important. Nos enfants sont en danger. Avez-vous vu cette camionnette? Oui, j'ai vu une camionnette blanche, mais peut-être pas celle-là avec cette plaque. Mais on m'a dit que, et en réalité, ce qui ressortait de cela, c'est qu'il y avait de la bonne foi dans le partage de l'information de la part de la personne qui l'avait fait. Donc, on est face, quelquefois, à des personnes qui relaient de bonne foi parce qu'elles pensent rendre un service à la communauté.
Vous avez, Eleanor Gay, une rubrique qui s'adresse aux 11-15 ans, je crois, donc Escape Games, qui est vraiment pour les adolescents. Mais les rubriques de fact-checking dans les 20 heures de vos journaux s'adressent plutôt à ceux qui vous regardent. Les journaux télévisés, donc des chaînes de télévision publique, s'adressent plutôt aux 60 ans et plus encore aujourd'hui. Bon, c'est pas les plus sujets.
Ah, aux...
si, justement. Mais si, justement.
Ah, c'est justement les plus sujets.
Ah bon.
Ça, c'est fou parce qu'on a tendance à dire, il faut éduquer les enfants. Jeune, à l'information. Ouais. Les enfants, ils baignent dans le numérique depuis qu'ils sont nés. Ils sont beaucoup plus forts que nous dans le numérique et beaucoup plus à l'aise. Les personnes les plus à risque, entre guillemets, c'est les gens qui, en fait, ils sont mis sur le tard et qui n'ont pas les codes.
Et qui n'ont pas ces codes et qui sont démunis par rapport à certains outils que nous, on peut petit à petit imposer dans nos rédactions. On a mis tous nos journalistes, en fait, en sensibilisation, fact-checking. Parce que même s'ils ne sont pas tous amenés à le faire, on s'est dit au moins, on aura une culture commune. On connaîtra les outils de base. Ils auront le petit radar qui va s'allumer. Mais, par exemple, on a constaté, nous, dans une consultation qu'on a faite au mois de janvier, dont les résultats ont été rendus en janvier, que parmi les environ 130 000 personnes qui avaient répondu et qui sont à peu près représentatives de notre public, il y avait quasiment la moitié qui demandait une expertise du service public sur la question du fact-checking, qui demandait est-ce qu'on les aide à comprendre et à faire le tri dans ces informations.
Et sur ces bonnes et mauvaises pratiques du fact-checking, donc Samuel Laurent a quelques années d'avance sur vous, est-ce que vous avez travaillé à ce que justement on apprenne du fait que c'est souvent contre-productif, que parfois on peut faire de la publicité en participant à la propagation de la rumeur, qu'on prêche à des convaincus, donc comment on fait parce que c'est inutile. Je lisais même, en préparant cette émission, une chronique sur Arrêt sur Image qui opposait le fact-checking de contre-pouvoir type Samuel Laurent au fact-checking de journal télévisé type ce que vous faites. Est-ce qu'on apprend de tout ça?
Ah bah oui, c'est une obsession.
On la mettra sur le site.
Alors, moi j'allais dire que par rapport à ça, on peut avoir évidemment des débats au sein de la rédaction, il y en a eu. Est-ce que le fait de relayer une information va contribuer à la propager? À quel moment on se saisit d'une information qui circule? Est-ce qu'on se saisit quand elle est toute petite, minuscule, en train de grossir, de germer dans des petits sous-groupes? Ou est-ce qu'on y va parce que on est inondé sur les réseaux sociaux par cette vidéo ou par cette info? On s'est posé ces questions-là. Après, sur la question de qui on va convaincre, la récupération, etc., on a exactement, j'allais dire, la même éthique que par rapport à tous nos sujets. Quand on fait une enquête sur un sujet qui dérange, et pas une enquête de fact-checking, mais forcément, ça peut être récupéré politiquement. Il y a des gens qui peuvent être d'accord avec nous et être heureux qu'on ait dénoncé quelque chose, et d'autres qui peuvent se dire « Ah mais pas du tout, moi je trouve que c'est pas le rôle de la télévision d'aborder tel type de sujet. » Donc j'allais dire que là-dessus, bon... Nous, on pense vraiment qu'il y a une évolution, que c'est une nouvelle source d'information dont on doit se saisir et qu'il faut le faire avec beaucoup de responsabilité.
Bon, alors on est à 2 mois d'élections très importantes. Tout le monde craint aussi la désinformation en pensant que la désinformation peut être un enjeu de ces élections européennes. Est-ce que c'est dans ce moment-là précisément que vous avez choisi, Eleanor Gay, de créer cette nouvelle rubrique « L'Europe dans tous ses états » qu'on peut déjà voir, ça a été créé la semaine dernière, le 22 mars.
Le premier numéro, oui.
Voilà. Et hier soir, vous vous souvenez du sujet qui est passé?
Le sujet d'hier soir est un sujet sur la PAC. Est-ce que la PAC est une manne pour les agriculteurs ou un cauchemar pour les agriculteurs? dans ces formats.
Là, c'est moins un Fox que Idées Reçues.
C'est moins un Fox que Idées Reçues, mais il y a un petit peu quand même de réflexion autour des infox. Et on part en plus de micro-trottoirs avec du public qui vont nous dire, quand on leur dit Pâques, qu'est-ce que ça leur évoque. Et quelquefois, il y a des informations de ce type qui sont reprises par les politiques dans les campagnes, qui vont utiliser des arguments. La semaine dernière, c'était sur la souveraineté des États. Est-elle en danger avec l'Europe? Voilà, il y a eu un travail de fact-checking, de data, sur notamment le nombre de lois, la proportion de lois qui émanent de directives, de retranscriptions de directives européennes ou qui émanent tout simplement de notre Parlement. Bon, il se trouve que la proportion qui émane de la France est bien plus importante. C'est pas directement du fact-checking, mais on est quand même dans cette espèce de bain d'informations.
Et est-ce que vous rejoignez Éléonore Guay en tant que directrice adjointe de la rédaction de France Télé? Est-ce que vous avez rejoint la vingtaine de médias internationaux dont Le Monde et donc les décodeurs du Monde qui ont créé le 19 mars dernier Fact Check EU, qui est une plateforme collaborative et participative destinée à lutter contre les fausses informations en ligne?
Alors nous n'y participons pas, mais nous réfléchissons à différents partenariats que nous pourrions mettre en place.
Samuel Laurent, c'est quoi l'idée de cette nouvelle plateforme? C'est encore d'être ensemble un peu plus fort?
Oui, c'est surtout de se partager les informations. L'idée, c'est de se dire que les intox vont probablement être les mêmes en Italie, en Allemagne et chez nous. Donc l'idée, c'est aussi de repérer ce qu'on avait vu pour, je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux pacte de Marrakech qui avait aussi affolé un peu les compteurs à la fin de l'année dernière. Ce qui était intéressant dans cette rumeur-là, c'est qu'elle venait des États-Unis et qu'elle s'est baladée dans toute l'Europe selon les mêmes termes. Et c'est intéressant parce qu'on assiste aussi... Derrière tout ça, il y a aussi des stratégies de communication. Ici, c'est vraiment des stratégies de communication des extrêmes droites. Un personnage comme Steve Bannon, qui est plus ou moins en tournée européenne en ce moment, est-ce qu'il joue un rôle ou pas? Je ne sais pas, mais toujours est-il que vous avez un effet d'internationalisation de ce type de choses, de ce type de rumeurs. Je pense aussi au cas de Bolsonaro au Brésil, qui avait utilisé le guide du zizi sexuel de Zep, lui-même critiqué en France par les anti-mariage gay, anti-gender, etc., comme truc de campagne. Donc c'est quand même fou comme ces intox se mondialisent. C'est aussi le.
Mais donc ça mérite quand même bien au-delà d'un papier ou même une petite rubrique de 3 minutes, des grandes enquêtes au long cours.
C'est ce qu'on veut faire, nous, oui.
C'est ce que vous voulez faire.
L'idée, c'est aussi... Le fact-checking, pour moi, c'est
la vérification,
c'est la première étape. J'avais pris cette métaphore-là en début de semaine, mais c'est un peu ça. C'est un peu comme quand un policier arrête un petit dealer dans la rue, si vous voulez, quand vous débunkez une intox. L'intérêt, c'est effectivement de comprendre pourquoi elle circule, qui l'a fait circuler, quels sont ces sites qui propagent ce genre de choses, pourquoi ils le font. C'est d'aller plus loin, évidemment.
Vous mettez les moyens, Léonore Guay, à la télé pour le faire, ça?
Alors, en fait, nous, comme on a une offre d'infos qui est quand même très très large, on a aussi beaucoup de magazines. Et moi, j'étais auparavant rédactrice en chef adjointe d'Envoyé spécial. Et il y a quelques années déjà, on a fait un gros numéro sur le complotisme et les circuits et la façon dont les infos sont relayées et qui est derrière, etc. Alors, c'était vraiment les prémices de ce genre d'enquête, parce qu'aujourd'hui on est arrivé à des systèmes industrialisés, mais c'est aussi le travail complémentaire plutôt des magazines par exemple.
Alors on ne peut pas terminer cette fabrique médiatique sur le fact-checking aujourd'hui sans évoquer les grands groupes et notamment Facebook, puisque vous parlez stratégie de communication, Samuel Laurent. Il se trouve que depuis 2 ans je crois, Facebook est financeur de plusieurs médias partenaires dans la lutte contre les fake news, dont à nouveau les décodeurs et Le Monde. Et Facebook a dévoilé sa stratégie là tout récemment pour rendre le réseau social plus transparent et plus fiable, notamment en vue des élections européennes. Comment l'un et l'autre voyez-vous la stratégie de communication et la stratégie tout court de Facebook dans ces histoires?
C'est difficile parce que c'est un partenaire qui est indispensable. Facebook en France, c'est près de 30 millions de personnes, notamment des personnes âgées vulnérables qui sont les premières utilisatrices de ce réseau. C'est pas les jeunes qui vont sur Facebook, c'est fini, ça, ils y vont plus. Mais toujours est-il que c'est un canal d'information essentiel. On l'a vu avec les Gilets jaunes, donc il faut être présent dessus. Donc je pense que c'est important d'y être. Après, d'y être avec un regard critique sur ce que fait Facebook, parce qu'il y a toute la question des algorithmes qui pèse énormément. Dans ce que nous on fait, le gros intérêt de ce partenariat, c'est de mesurer justement la propagation de rumeurs. On en parlait tout à l'heure, de savoir quand est-ce qu'il faut les débunker. Un des intérêts de Facebook, c'est de nous montrer lesquels circulent le plus et lesquels ont la plus grande vitesse de propagation. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour objectiver ce qu'on vérifie.
Éléonore Guay.
Alors nous ne sommes pas associés avec Facebook parce que quand la question s'est posée, nous n'avons pas souhaité, parce que la contrepartie est une rétribution de Facebook. Nous n'avons pas souhaité rentrer dans ce type de démarche en tant que service public. Nous avons demandé à Facebook de pouvoir bénéficier de ce travail de veille, mais à titre totalement gratuit. Nous ne souhaitions pas être payés pour cela et le groupe a refusé.
Et on en est là. Eh bien, merci beaucoup. C'est la fin de cette fabrique médiatique. Juste un mot pour annoncer à nos auditeurs que demain soir, France 5, qui fait partie du groupe de France Télévisions, France 5 diffuse 3 reportages dans sa collection La Fabrique du Mensonge, qui fait aussi partie de cet ensemble de fact-checking, on va dire. Le premier reportage sur le Brexit, référendum mensonge et réseaux sociaux, ça tombe bien. Le deuxième, ce sera sur la présidentielle, l'ombre russe, consacrée aux attaques informatiques qu'a subi Emmanuel Macron et qu'ont subi ses équipes lors de la campagne présidentielle celle de 2017. Et le troisième portera sur les vaccins. Les rumeurs ne meurent jamais. Le titre de ce reportage, c'est donc demain sur France 5 à 20h50. Merci beaucoup, Éléonore Guay.
Merci.
Et merci à vous, Samuel Laurent.